bide à bière et bonne musique. Iron Man.
Iron Man !
À consommer sans pression. De 22h à 23h, Iron Man sur Prune.
Bonsoir et bienvenue dans Iron Malt, l'émission métal de Prune, tous les mardis soirs de 22h à 23h. Je suis John et avec moi ce soir que des techos, avec Jeanne. Salut Jeanne.
Ouais.
Ouais. Et Mathis, coucou Mathis.
Coucou.
Et coucou.
Le pauvre est perdu au milieu des techos.
Ouais, c'est ça, mais non, mais il n'y a plus que ça maintenant. Parce qu'avec les autres, hein, entre ceux qui bossent, ceux qui déménagent et les cas contacts, hein, eh bien, je resterai seul à la barre pour accueillir un groupe dont j'ignorais l'existence il y a 2 mois, avec un copain qui me fait tu connais pas ? Bah tiens, écoute. Puis la boum dans ma gueule, grosse tuerie. Et bien sûr, il était impensable de ne pas vous faire tout mon possible pour vous les présenter. Il s'agit de Dragunov. Alors bonsoir Tristan.
Salut.
Et bonsoir Seb.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va super. Bien.
Ah, content de vous avoir. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous commencerons donc avec une interview à notre pensée au live très attendu. Le tout entrecoupé de la chronique de Jeanne, Metalorama. Et c'est parti tout de suite pour l'interview.
Ne soyez pas intimidés, restez naturels, parlez comme vous parlez d'habitude, hein ?
Faut pas essayer à tout prix d'être original.
Allez, et maintenant les choses sérieuses, le dépunch.
Le vin qui dit vin dit porte vin.
T'as déjà vu ? Pauvre type en cul.
Pardonnez-moi Robin, je pense que c'est le moment d'interrompre.
Allez, remballe tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
Donc Dragunov, c'est un duo composé de Seb à la gratte et de Tristan à la drum. Alors première question, comment vous vous êtes rencontrés et est-ce que ça fait longtemps que vous jouez ensemble ? Vas-y, peu importe.
On s'est rencontrés il y a longtemps, beaucoup trop longtemps, je sais pas, 2009, 2009, 2010.
Il y a 8 ans. Ouais,
bah, plus 2009. À Angers, quand on était étudiants à Angers, en fait, tous les deux, Seb jouait de la batterie et moi aussi, du coup. Et on s'est échangé du matos de batterie, enfin, on s'est revendu du matos de batterie. Et puis un jour, on s'est dit, il a l'air sympa l'un et l'autre, et on a été boire des bières ensemble. Et puis voilà, et puis après, on s'est dit qu'un jour, il faudrait qu'on fasse un groupe ensemble. Seb a commencé à jouer de la guitare, en plus de la batterie. Et puis bah, quand on a déménagé à Paris en 2013, tous les deux, arrivé à Paris, on s'est dit, vas-y, on monte le groupe. Et voilà.
Super, nickel. Oui, donc du coup, parce que c'est vrai qu'un groupe avec 2 batteurs, c'est compliqué.
Ouais, ça peut se faire avec nous, avec le loupin.
Ça aurait pu. Seb, tu fais également partie d'Abyss. Je dis fais, c'est toujours au...
Oui, je fais toujours partie du groupe.
Groupe de prog instrumental aussi. Et du coup, 2 questions à ce propos. Parler un peu des origines. D'où vient cette passion pour l'instrumental, hein, ça s'adresse à toi aussi, Tristan. Et qu'est-ce que Dragunov, en particulier, apporte musicalement ? Qu'est-ce qui t'éclate, toi, du coup, en plus dans ce projet ?
Bah, l'instrumental, c'est venu un peu comme ça. Enfin, en tout cas, avec Abyss, on fait de la musique entre potes. Donc, moi, je faisais de la batterie. 2 potes se sont mis à la gratte. Et puis, le dernier a pas eu le choix de se mettre à la basse, vu qu'il restait plus que ça comme poste. Et en fait, on a commencé à faire des reprises, Nirvana et compagnie. Puis après, on s'est dit, c'est quand même chiant de faire des reprises. Et on va faire des compos. Et on a fait des compos comme ça. Et en fait, on s'est jamais posé la question de dire, il faudrait un chanteur. En fait, on trouvait ça déjà cool comme ça.
C'est quand même beau. Fait d'instrumental parce qu'on n'a pas de chanteur.
C'est un peu ça. Et bon, au final, la démarche est exactement la même avec Dragou. On a monté le groupe tous les deux et on s'est dit fuck.
En fait, la base, c'est d'être potes et... Ouais. Et voilà.
Yes. Donc on peut dire Dragou, par contre, je retiens.
Oui. Ah ouais, ouais. Ça va beaucoup plus vite.
Bah, continuons de parler de Dragou, justement, puisque sur Bandcamp, vous vous présentez comme post-metal. Alors certes, mais on retrouve aussi bon, du coup des notes de prog, comme on l'a dit, mais aussi un peu doom, un peu black. Comment vous définiriez-vous votre style ?
Post-metal, c'est bien.
Post-metal, ouais. C'est bien.
C'est... Ouais. Oui, effectivement, on mélange plein de choses, mais comme maintenant tous les groupes, au final, c'est ce qui fait le charme. Mm-hmm. Après, post-metal, c'est le côté, bah, on fait de la musique ambiante et plus ou moins longue. Après, ce qu'il y a dedans, la tambouille, J'aime bien ce mot.
C'est de la tambouillant.
Du post-tambouille.
Après, on se pose pas trop la question non plus de savoir qu'est-ce qu'on fait. On fait le truc et voilà quoi.
On est, vu qu'on est inspiré de plein de groupes, plein de choses qu'on aime dans tous les styles finalement.
Bon, on en parlera un petit peu.
Il y a des morceaux plus.
On regarde la question pour tout à l'heure.
Il y a des morceaux plus post, effectivement, plus aériens, plus planants. Mais plus ça va, plus on avance, plus on se rend compte qu'on aime bien juste faire du gros métal bourrin. Et que, donc, si on voudrait redéfinir, on pourrait juste dire métal instrumental, en fait, environ le poste. Ce serait
ça, c'est
Abyss,
simple. Là.
C'est déjà pris. Désolé. Et pour les compos, justement, vous composez tous les deux. Ça part de la batterie, ça part de la gratte. Comment ça marche?
C'est plus de la guitare. Mais après, on ne fait que du jam, en général. Donc, on compose au final à deux.
Ça arrive avec des idées.
Voilà, ou pas.
Ouais, ou pas. Ou juste on fait du bordel et on boit une bière, on se pose derrière des instrus, on fout du
bordel. On fait des notes et on voit.
On trouve ça cool, on enregistre. Et
puis après, on fait le tri de ce qu'on aime bien. Après, on discute effectivement de l'arrangement. Vu que je suis batteur aussi, on peut parler vraiment aussi plus de batterie.
Ouais, ça aide vachement. C'est quand même un point qui est hyper primordial dans la compo. Seb étant batteur, il écrit des trucs de guitare que d'autres guitaristes n'auraient pas forcément fait.
C'est plus simple et un peu indus la façon.
Ouais, on a ce côté indus aussi, pas mal de gens qui nous le disent, et je pense que ça vient de là en fait, ce côté indus.
Rythmique, on est très rythmique.
Très rythmique, double batterie.
Du côté très métallique aussi, c'est vrai que ça fait très indus. Effectivement.
Et sur le à propos des samples aussi qui s'ajoutent à votre musique, qui est-ce qui s'occupe de cette partie un peu créa sonore? Et par curiosité, je me demandais où est-ce que vous récupérez tous ces sons? Est-ce que c'est du bruitage un peu chopé à droite à gauche sur la sonothèque, des trucs comme ça, ou est-ce que vous les faites vous-même ces bruitages?
Alors ça, c'est la partie de Tristan Monin, c'est sa partie plus créative que faire Boom Shack.
ça arrive après, en fait, une fois qu'on a composé le morceau, on les habille avec les samples pour rester dans l'état d'esprit du groupe et dans le... Et ouais, ce que tu disais, on les chope un peu partout, YouTube, les samples de Cosmonautes, là, c'est des vidéos YouTube que j'ai téléchargées en qualité dégueulasse MP3, mais au final, comme le sample est dégueu d'origine, c'est pas grave de les avoir incorporés comme ça.
Il faut du grain aussi.
Oui, c'est ce qu'on cherche dans notre son, autant même à la guitare batterie.
Sur des banques de données aussi, de samples sur Internet, Freesound, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Donc voilà. Mais on est en train d'y penser pour le prochain album, de peut-être bosser avec un mec qui créerait les samples pour nous, avec des synthés, avec des trucs comme ça. C'est clairement une connaissance que nous, on n'a pas, qu'on ne sait pas faire, mais on est hyper curieux d'apprendre à faire ça. Et on a rencontré du monde, on a 2-3 potes à qui on pense, à qui ça pourrait être assez cool de faire ça, justement, de créer tout de A à Z.
Ouais, trop cool.
Ça pourrait être vachement cool.
D'être plus personnalisé sur ce qu'on a envie. Genre, on voudrait vraiment cette sonorité que tu cherches, mais tu ne trouves pas tout le temps.
Et justement, comme du coup on en parlait tout à l'heure, c'est quoi vos inspirations, vos influences? D'où vous tirez la sève?
On a quand même un tronc commun avec Tristan, où il y a quelques groupes où on est toujours d'accord. Bon, déjà, on aime bien le post-metal de base.
Oui, c'est compréhensible.
Après, il y a des groupes genre Russian Cycle qu'on adore.
Obviously.
Forcément de l'instrumental. Et en plus, ils font un peu de tout, c'est un peu bourrin, il y a des arpèges, il se passe plein de choses, c'est dynamique. Donc ça, c'est un des fleurons.
Après, il y a aussi, on en revient à la base, le groupe, c'est d'abord deux potes en fait, qui écoutent de la zik ensemble en soirée quand on est un peu bourré. Et on dit, oh putain, ça c'est trop bien, il faut qu'on fasse des trucs comme ça. Et donc en fait, ça passe de plein de trucs, on écoute vraiment de tout. Et notre grosse source d'inspiration, c'est aussi le Hellfest, quand on voit le Hellfest tous les deux et qu'on voit les groupes et on fait « Ah, oh, ça c'est trop bien !»
C'est un peu notre bibliothèque de l'année, mais qu'on n'a pas depuis 2 ans, donc c'est un peu chiant.
On pioche un peu partout. Et donc on pioche un peu partout, mais les groupes principaux sont des groupes qu'on écoute depuis longtemps en fait.
Cult of Luna.
Triptychon, Rosetta. Plus récemment Mentard, parce qu'ils sont que deux aussi, et c'est vraiment trop bien.
Ils nous ont pas inspiré à lancer le groupe, on les a connus.
Mais par contre, ce qu'ils font, c'est trop cool, donc on repique des petites idées à droite à gauche.
Super, parfait. Merci beaucoup. On va revenir pour une deuxième partie d'interview, mais d'abord une petite pause, et pas n'importe quoi, puisqu'il s'agit d'une pause cadeau.
J'ai reçu un gros cadeau,
un gros cadeau,
que j'ai ouvert aussitôt.
Très bien ce jingle, très bien.
Les oreilles.
J'adore.
Et ce soir, nos invités ne sont pas venus uniquement accompagnés de leur talent, mais aussi de cadeaux à vous faire gagner, en l'occurrence 10 J-Pack de leur dernier album, c'est bien ça?
Ouais.
Ouais, super. Wow. Et pour gagner, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur l'Instagram d'Iron Malt et de nous envoyer un message privé, et c'est gagné, donc on ne peut pas faire plus simple. Oui, des t-shirts aussi, mais il y a plein de surprises, et surprises en plus. Mais vous inquiétez pas, voilà, vous allez sur Insta, vous envoyez un message privé, et c'est gagné. En attendant, nous retrouvons Jeanne pour sa chronique Metalorama. Metalorama, la chronique cinéma d'Iron Malt.
Aujourd'hui dans ce Metalorama, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un documentaire. Aquarella de Victor Kosakowski, sorti en février 2020. J'ai choisi ce film aujourd'hui car je cherchais à faire le lien avec l'univers de nos invités du jour. Or, tout d'abord, Kosakowski est né à Leningrad et a grandi sous l'ère soviétique. De plus, le parallèle entre un cinéaste qui écrit ses films comme s'il composait une symphonie et l'évident côté très cinématographique des morceaux de Dragunov m'a semblé tomber à point nommé. Sous-titré « L'Odyssée de l'eau » en France, Aquarella est un film dont le protagoniste principal n'est autre que l'eau elle-même. Pas de personnage humain, donc, et par conséquent, pas de voix off. Filmé à 96 images par seconde, c'est une expérience visuelle, et oserais-je dire sensorielle, étonnante, viscérale, qui emporte le spectateur dans une odyssée, donc. Des eaux glacées russes du lac Baïkal, aux chutes du Salto Angel au Venezuela, l'ouragan Irma dévastant Miami, le film nous emporte dans un courant qui nous éloigne petit à petit de la civilisation humaine, pour rendre vivantes ces eaux qui deviennent personnages. La bande-son tend parfois vers l'ASMR. Gargouillis organiques et ruissellements sensuels se font voix. Le travail du son est vraiment incroyable. Le film n'a pas besoin d'une voix humaine pour défendre son propos profondément écologique. L'opéra de textures, de mouvements parfois amples, parfois infimes de cette eau, orchestré par Victor Kosakowski, suffit à transmettre le message d'une manière très simple, mais pourtant si forte. Une dramaturgie primitive, un récit dicté par des phénomènes biologiques, c'est donc un film très expérimental qui ne plaira pas à tout le monde. Pour citer RVL, habile critique d'Allociné, mettre une caméra sous la pomme de douche donne le même résultat. Merci Hervé, mais pour ma part, j'y verrais plutôt un poème d'une puissance folle, une expérience sensorielle inédite. Mais me direz-vous, que vient faire ce film dans cette chronique métal et cinéma? Eh bien attendez, je ne vous ai pas encore parlé de la bande-son. Écrite par le violoncelliste finlandais Eika Topinen et interprétée par le groupe dont il est le fondateur, j'ai nommé Apocalyptica, la musique du film colle à la perfection aux images. La puissance de la houle entre en connivence avec la saturation des violoncelles. Ah oui, parce qu'il faut préciser, Apocalyptica, c'est un groupe qui est composé de 3 violoncellistes et d'un batteur. La musique donc apporte fondamentalement aux images, tant en puissance qu'en subtilité, rendant le spectacle d'autant plus grandiose et parfois inquiétant. Le film peut avoir des airs de très longs clips musicaux, tant les images semblent faites pour la bande originale et inversement. Je ne suis pas amatrice de clips, mais l'accord parfait des deux médiums, vidéo et musique, m'a pour le coup vraiment fascinée. Je vous le conseille donc, le film est dispo en DVD ainsi qu'en VOD sur MyCanal, Universciné ou encore la plateforme Orange. Et je vous laisse en musique avec le titre Aquagenesis, issu de la bande-son du film, par Apocalyptica. We'll be right back.
Iron Malt, brassé depuis 2019.
Donc vous êtes toujours dans Iron Malt sur Prune 92 FM, vous êtes toujours en compagnie de Dragunov, hein, n'est-ce pas les gars?
Ouais.
Bon maintenant, la nouvelle question, vous avez sorti trois albums, donc depuis 2015, le premier 637, puis Korolev en 2017 et Arkhipov il y a tout juste un an. C'est un bon rendement, la composition se fait facilement visiblement?
Oui.
Oui, très bien, prochaine question.
Non bah ouais, on se voit... Quand on n'est pas en tournée ou qu'on n'a pas de live à préparer, on se voit, on compose, on ne répète pas.
Et vu qu'on n'est que deux pour les répètes, c'est aussi
c'est
plus simple.
C'est plus simple. Ouais, des groupes à six ou deux, machin, c'est chiant.
Voilà. Ouais, pour concorder de l'emploi du temps de tout le monde.
Donc non, ça c'est ouais, sur du 2-3 ans, enfin 2 ans en général.
Ouais, Arkhipov, on l'a composé assez vite en fait, et on l'a enregistré en avril 2019, on l'a enregistré alors que l'autre était sorti en avril 2017, et ouais, c'est ça, 2 ans quoi. À peu près. Bah là, ça a pris un peu de retard, because Covid et putain de confinement et tout le bordel.
On va en reparler après, la prochaine album aussi.
Vous inquiétez pas.
Mais ça avance quand même.
Oui.
Arkhipov, justement, vous êtes allé au Mastoid Studio, du coup, j'ai l'impression que c'est un gros studio, pas loin de Pantin, c'est ça?
C'est ça, c'est à Pantin, ouais.
J'ai l'impression, donc j'ai regardé un peu sur quoi ils bossaient, ils sont plutôt orientés pop, j'ai l'impression, pop-rock un petit peu, avec du Isia, Parcells. Du coup, pourquoi ce choix et comment ça s'est passé là-bas? Est-ce qu'ils n'ont pas été trop dépaysés, du coup,
selon ce que je voyais? Alors, en fait, on s'est servi plutôt des locaux que du studio même.
Vous êtes venu avec quelqu'un
d'autre, ouais. Studio. On est venu avec Raphaël Beauvais, qui était le batteur de Kruger. Mm-hmm. Paix à son âme, ce groupe-là, il était quand même bien. Et qui est ingé son et puis qui produit des albums.
Ouais, qui produit tout le métal suisse, globalement, c'est lui, quoi, à peu près. Et donc, via Abyss et Kruger, Seb et Raph se connaissaient. Donc, quand on lui a demandé de bosser pour nous, il a dit oui. Donc, on l'a fait venir à Paris pour enregistrer et mixer et masteriser l'album.
Donc, c'était pour faire les prises batterie
Ouais, on a enregistré la batterie à Mastoid.
Ok.
Et c'est un studio où moi, je répétais avec un autre groupe. Depuis, on a répété pendant 5-6 ans là-bas. Donc, on connaît très bien les lieux. Et on était un peu à la maison pour enregistrer. C'était confortable aussi, c'était cool.
Ça a l'air confort, ouais.
Ouais, mais c'est un putain de studio, en fait. Ils ont du matos de dingue et les gars sont super cool. Donc, c'était une bonne expérience. Raph était un peu halluciné, d'ailleurs. Pourtant, c'est un gros ingé son qui a bossé avec plein de monde. Et quand il est rentré dans le studio, il a fait « Putain, mais c'est quoi ce lieu, les gars ?»
C'est grand, déjà, c'est très
grand. Et puis, il a vraiment des trucs très particuliers.
Il y a du matos de ouf qu'il n'avait jamais vu, lui,
des vieux machins, j'ai fouiné un peu.
Incroyable.
Je me rappelle de Raph, vraiment de cette...
Des trésors, quoi.
Il est rentré dedans, il a fait « Oh, mais ce truc-là, je bosse avec en software depuis des années, et jamais je penserais en avoir vu un. »
En vrai.
J'aurais pensé en avoir vu un en vrai, quoi. Donc, c'était cool.
Trop bien. Et pour parler encore un peu plus de la prod, du coup, si vous me dites, si je me trompe, mais vous êtes toujours en full indé, pour l'instant, pas de label.
Non.
Est-ce que c'est un choix? Vous voulez rester comme ça? Ou est-ce que
personne
vous
commencez... Nous.
Ben c'est le moment de passer votre petite annonce, les gars.
Non, ça n'a pas été... En fait, on a fait les choses un peu à l'envers pour Arkhipov. On a booké une tournée pour la sortie de l'album, avant que l'album soit fini.
Ok.
Et donc, du coup, c'était un peu le rush. À la fin, on était à la bourre de ouf. On a traîné pour enregistrer les guitares. Donc, du coup, on était dans le rush de le sortir. Il fallait qu'il sorte parce qu'on partait en tournée juste après. Donc, on n'a pas pris le temps de chercher un label, vraiment. On n'est pas fermé du tout à l'idée pour le prochain.
Pour le prochain, on y réfléchit.
Du coup, c'est cool parce qu'on a eu cette démarche sur Arkhipov qui ne sera pas du tout la même pour le prochain. Là, on va vraiment prendre le temps de tout enregistrer, de clipper des trucs, de faire des photos, de tout faire un beau produit avant de sortir. Quoi, vraiment.
Ça devait être un beau challenge quand même, du coup.
Ouais.
Ouais,
c'était cool d'avoir aussi la deadline. Ça nous a mis la pression de faire les choses avant que.
Ah, qu'ils sont trop tard.
Ouais.
Magnifique. Pour parler un peu du nom du groupe, est-ce qu'il y a une histoire derrière? Parce qu'un Dragunov, c'est une arme à feu soviétique, et vu le nom des albums, des morceaux, et même le clip Semyorka, on sent une très, très, très légère influence soviétique qui nous ramène à l'époque de l'URSS.
C'est
très léger, c'est vraiment, ça ne se voit pas. Pourquoi? Ah.
Alors en fait, ça vient d'une petite histoire de potes, vu que le groupe a démarré comme ça. On était sur Rennes à l'époque, donc c'était il y a une dizaine d'années. Et j'avais un airsoft fusil à lunettes. Mm-hmm. Et du coup, on s'amusait à shooter tout ce qu'on pouvait avec. Je ne parlerai pas d'animaux à quatre pattes, t'avais un peu poilu.
Pas les chats.
Non, jamais les chats.
Les chats, ça va alors.
Les chats, c'est trop mignon.
Et les caniches des vieilles.
Et puis on s'est dit, c'est trop cool ce gun. Si on fait un groupe, on pourrait faire un Dragunov, parce qu'on aimait bien le fusil sniper plus russe. Mm-hmm. Et bah du coup, vu qu'on avait choisi ce son-là, bah, on a créé un univers autour de ça.
Ok, ah oui, donc vraiment totalement au pif, quoi, il n'y a pas de...
Ouais, on s'est vraiment dit, vas-y, si un jour on fait un groupe, ça s'appellera Dragunov, et c'est resté, quoi.
Et en fait, c'est notre blague est restée, et puis bah, en fait, l'univers est trop cool à développer. Pour
ouais. Nous. Franchement, ouais, donc ça marche, et en plus, ça marche avec la sonorité du...
Ouais, ouais, et
puis... Ça aurait été perlimpinpin, ça aurait été moins rigolo de développer, mais... C'est sûr.
Du coup, on utilise le nom et on exploite en fait l'univers à fond, vu qu'il n'y a pas de paroles.
De chant.
Et que ça, pour avoir une identité. Et puis, on bosse surtout beaucoup sur l'identité visuelle et sonore via ce truc-là.
Qui est quand même assez primordial.
Bah, ouais. Justement, tiens, pour parler de l'identité visuelle, le logo, hein, pareil, c'est au pif ou, parce qu'il y a des versions très détaillées, très jolies, mais de base, c'est juste un triangle. Donc, qu'est-ce qui vous est passé par la tête, là aussi?
Alors, je suis graphiste.
Alors, tu dis pas ça de son logo, ok?
Alors, tu vas fermer ta gueule. Ça fait 10 ans que je suis dessus.
Non, mais l'autre.
Il y a même des connards qui se le sont fait tatouer dans le dos.
Ah, on a
comme
vu,
toi,
on a
par
vu.
Exemple. Non, il est très sympa, le logo.
Pas mal logo, le pourquoi du comment, là, je sais plus trop.
Ouais, non, c'est juste en créant le logo. Le A est sorti en triangle et après, on a réexploité le A partout, quoi. Sur le backdrop, il est en gros. Mm-hmm. Sur scène, maintenant, on a un énorme triangle en bois qu'on a fabriqué avec des lights dedans qui nous représente sur le t-shirt, il est partout aussi.
Ça. Bah, du coup,
sur aussi, les amplis, sur le dos du batteur.
Oui, partout. Et puis là, c'est reconnaissable, donc c'est vrai que ça marche.
C'est ça.
Et donc, comme on parlait donc, d'un dernier album, ça fait un an que, du coup, qu'il est sorti. Et à la vitesse où vous les faites, donc tous les deux ans, tous les trois ans, le prochain album sort quand?
Alors, quand on aura trouvé un label. Un gros label.
T'inquiète pas, on en connaît plein, on t'en présentera des labels.
En tout cas, on en connaît deux, tu sais.
Il est déjà bien avancé dans la composition, par contre, parce que le confinement a un peu aidé.
Ah bah oui.
Parce que vu qu'on a, comme tous les groupes, on avait que ça à foutre.
C'est ça, exactement.
Donc autant utiliser ce temps-là pour composer. Donc on a bien avancé sur les compos. On a dû faire le 2/3, quelque chose comme ça.
Ouais.
Ah oui.
Donc il est bien entamé. Faut qu'on
s'y remette un peu. Là, ouais. Après, on a tourné là, en novembre. Il y a eu heureux des confinements où on n'était pas ensemble.
Plus donc, un peu de déménagement.
Oui,
nous sommes à Nantes.
Pour arriver à Nantes. Il y a eu, les deux dernières années ont été un peu en pointillé, mais ça avance quand même tranquillement. Donc là, on finit de composer, en gros, on va finir de composer. Et quand ce sera fini de composer, on ira l'enregistrer, etc. Quoi.
Bon, Inch'Allah en 2023, quoi.
Ça peut être quelque chose comme ça, ça pourrait le faire.
Et donc, dernière question, évidemment. En dehors de ça, est-ce que vous avez d'autres projets et bien sûr des dates à venir?
On devait partir en tournée en février, là, mais Covid... oblige, ça a été annulé. On essaye de les reporter pour avril et mai. Donc on espère que ça va le faire pour avril et mai. Là, je suis en train de bosser dessus. On va voir si ça marche pour faire des dates. Et
un petit clip, non?
On voulait clipper autre chose d'Arkipov. On a clippé le 65-76. Ouais. On voulait en faire un deuxième. Et puis, bah, pareil, because Covid, on n'a pas eu le temps. Je pense qu'on va plus s'orienter sur bosser le prochain album, les compos et puis on clippera des trucs évidemment avant de le sortir.
Eh bien merci beaucoup Dragunov pour cette interview. On va passer bien évidemment tout de suite au live. Et oui, bien sûr, il faut passer au live. Mathis, c'est parti.
Tu l'as fait!
La gratte, elle sature! Baisse! Encore! Baisse encore la gratte!
Et quelqu'un, 4 cordes de basse, s'il vous plaît!
Check!
C'est qui sur le micro?
C'est qui?
C'est toi,
sur le micro! Le SM58! Ah non, le SM57! Et 4, XLR, s'il te plaît!
Michel, on a perdu le fly!
Le retour!
Plus fort!
Saucisson!
Plus fort!
Plus fort!
We'll be right back. книжки бы очень заняты. Значит, огромная голова, наверное, 60-го размера. Невероятная голова и торчком стоящие, значит, рыжеватые волосы. Вот. Но он любил говорить. Говорил хорошо. Много читал, знал Чехова. Знал хорошо оружие. И мы часто начинали разговор. А скажи, пожалуйста, Драгуну. We'll be right back.
Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous avez plu. Alors, merci à Dragunov d'être venu répondre à nos questions. Un petit truc à ajouter ?
Ah bah oui, tout à l'heure tu nous parlais de nos projets. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités.
Ouais, merci. Bien sûr, non, merci
et, de nous plaisir. Avoir fait jouer dans ce petit studio. C'était vraiment cool. Oui, tu nous parlais de nos projets et de des prochaines compos et des prochains trucs qu'on va sortir. On a complètement zappé tout à l'heure, mais oui, on a enregistré un morceau à Mastoïd aussi d'ailleurs l'été dernier avec Nord, un groupe de Lille, qui sont des très très bons potes à nous et ils sont en train de préparer un EP en collab avec plusieurs groupes. Donc chaque morceau sera en collaboration avec un groupe différent.
Et dont nous.
On est un des
trop bien.
Un des je sais pas combien de groupes qui seront sur l'EP. Donc le morceau est enregistré
et
clippé. Il est en phase de mixage, donc ça sortira, je sais pas quand, bientôt. Et du coup, une des tournées qu'on devait faire en mars, avril, c'était avec eux. Mais c'est reporté pour probablement fin d'année.
Petit clip en mode live session.
Ouais, exactement. Coup, ouais, c'est ça. On l'a enregistré en live. C'est de la prise live. Donc c'était le bordel parce que trois guitares de batterie, une basse de chant. C'était un poil le bordel, mais c'était trop, trop
ça
cool.
Ça va être vraiment cool.
Donc on espère que le morceau sort bientôt, là, sortira bientôt. Et,
Donc merci à Nord pour cette invitation au passage.
Et puis il faudra venir nous voir quand on tournera avec eux parce qu'on jouera le morceau en live avec eux. On l'a fait déjà là, en novembre, quand on a tourné en novembre. On a joué avec eux à Nilde. Et on a joué le morceau en live, c'était le gros bordel, c'était trop bien.
Eh ben super, merci beaucoup.
Ah, merci
à vous. On checkera ça, bien sûr, quand ça sortira. Merci à vous, chers auditeurs et autrices, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour En vinyle et en canette, notre émission dédiée aux sorties d'albums. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions en podcast sur le www.prune.net et Podcast Addict. Juste après, vous retrouverez Le Garage, l'émission rock qui chaque mois s'articule autour d'un thème. Alors restez sur Prune 92FM, à la prochaine, ciao.
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 Allez, balance ton générique de merde, là. Balance ton générique de merde. C'est la fin de l'émission, rentre chez toi. T'es déjà chez toi. Reste chez toi.